Sarah Mortensen, Lola Delwer, bonjour. Donc, merci de nous accueillir pour la quatrième saison d'Astrid et Raphaël. Vous n'êtes pas venu seul puisque Alexandre De Seguin, donc, qui est co-créateur avec Laurent Burtin, est également de la partie. J'aurais voulu savoir comment ça se passait au niveau professionnel. Est-ce que Astrid et Raphaël sont toujours dans la même voie que les précédentes saisons? Est-ce que Astrid, vous êtes toujours documentaliste à la documentation criminelle, et Lola, toujours commandant Coste?
Non, je suis devenue coiffeuse. Ouais. Et puis Astrid est
le bâtiment.
on garde évidemment nos métiers respectifs. C'est vrai qu'on finit une saison 3 sur un suspense de est-ce que Astrid va pouvoir continuer ou non à enquêter avec la brigade criminelle. Je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, elle travaille toujours à la documentation criminelle et le commandant Coste est toujours à la brigade.
Saison 4.
Quoi, saison 4?
On va découvrir la saison 4.
Oui, absolument. Ouais. On va découvrir la saison 4. À la fin de la saison 3, si je ne dis pas de bêtises, Astrid a son... obtient son autorisation d'être OPJ. On s'y perd.
Et vous avez toujours tourné dans les locaux des archives de Val-de-Marne?
Alors, pas cette année. Cette année, on a pas tourné dans leurs locaux, mais de toute façon, on tourne dans des studios. On a recréé ce décor assez spécifique qui est l'univers d'Astrid et l'univers de la série.
Alors vous avez tourné du 16 août au 6 décembre 2022. À quel moment vous avez eu le feu vert?
C'est un feu vert dernier mois de mai, mai et vraie confirmation en juin, je dirais.
Ouais, quelque chose comme
très,
ça.
Très tard cette année.
Ah oui,
ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont attendu la diffusion.
On avait déjà commencé à tourner quand ça a été diffusé.
Ça a été très particulier cette année. Ce qui a été la particularité cette année, c'est que par le hasard et le jeu des calendriers, la saison précédente, donc la saison 3, a été diffusée pendant le tournage. Donc c'était quelque chose d'assez particulier parce qu'on vivait la réception de la série par le public, qui a été assez bonne en France et je crois en Belgique aussi.
En même temps
qu'on fabriquait la saison suivante, donc ouais. C'était à la fois ça nous portait, à la fois c'était je sais pas comment vous l'avez vécu.
Bah nous, une fois qu'on est dans le tournage, on est complètement dedans, quoi. Après, ce qui était, c'est vrai que d'habitude on devait attendre en fait les auditions.
Audimat.
Ouais. Je suis très fatiguée. C'est la radio, là. C'est bien. Voilà, donc je vous présente Sarah Mortensen. Il y a un gouffre entre Astrid Nielsen et Sarah Mortensen. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Parce qu'elle est très loin de moi. Donc, normalement, on est sujet, en fait, aux Audimat pour savoir si on remplit ou pas. Et cette année, effectivement, on nous a donné un feu vert parce qu'on allait diffuser bien plus tard et qu'on n'aurait pas pu rendre à temps la saison 4 si on attendait la diffusion de la saison 3. Donc ça, c'était vraiment chouette. Bah, c'est bien, on était porté par des chiffres absolument incroyables tous les vendredis, c'était chouette.
Lola, Sarah, quand vous avez signé votre premier contrat, c'était déjà le long terme qui était prévisible ou partait un petit peu à l'inconnu?
C'était un pilote, mais qui potentiellement pouvait déboucher sur des saisons.
Vous étiez déjà engagé.
On n'est jamais engagé dans ce métier, on ne sait jamais. Vraiment, en plus, pour un pilote, on attend vraiment, là pour le coup, les audimats sont vraiment très importants. Et on n'aurait rien pu démarrer ou continuer sans un bon score d'audimat. Les pilotes, c'est vraiment trop touchy.
Est-ce qu'il vous arrive de revoir d'anciens épisodes pour vous remémorer vos personnages et voir éventuellement la façon dont ils réagissent, non?
Non, on les a.
Vous faites confiance, Alexandre?
Alors déjà, nous, on connaît nos persos, les auteurs connaissent nos persos, ont vu ce qu'on a pu faire, transformer, parce qu'ils avaient pas, ils ont écrit, par exemple, le pilote. Ça a été écrit sans connaître ce que nous, on allait apporter comme travail en plus.
C'est vraiment un échange, c'est-à-dire que nous, c'est la richesse d'une série, c'est que on a la chance de pouvoir écrire un personnage, le voir incarné, pouvoir le réécrire derrière. Donc il y a forcément, évidemment, un échange très riche qui se fait, et c'est des co-créations, ces personnages. Sarah et Lola ont apporté énormément à leurs personnages, et aujourd'hui, c'est des personnages qu'on a portés ensemble.
Est-ce que sur les 4 ans, les thèmes changent? Est-ce qu'il y a, en fonction de l'air du temps?
Bon, on essaye de suivre un peu l'air du temps. On essaye de garder notre identité. On est toujours dans des univers qu'on veut un peu particuliers. On joue avec les genres, on joue avec les codes de la série policière pour essayer de rentrer dans les histoires par des portes dérobées systématiquement. Mais on essaye, oui, d'être un peu à l'écoute des sujets de notre époque.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sensation de devoir monter chaque fois un peu plus haut? Enfin, je ne vais pas parler notamment de meurtre en haut vol, mais est-ce que chaque fois, il n'y a pas une surenchère par rapport aux saisons précédentes?
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
On a essayé d'avoir Bruce Willis pour cet épisode dans l'avion.
Il vous a pas sauvé pas de 58 minutes de vol.
Non, puis pour le faire venir, beaucoup trop d'heures de vol.
Non, mais quitte à continuer, autant faire mieux que...
Ouais, on est toujours en évolution. Voilà, c'est ça.
Mais au niveau de l'exigence de tout le monde, de notre jeu, des histoires, pour eux, ils ne nous déçoivent jamais, les auteurs.
Et au niveau de votre personnage, Sarah, est-ce que votre féminité change ou se révèle un peu différemment?
Alors, elle se révèle différemment dans le sens où, saison 3, je ne suis pas avec personne, et d'accord, j'ai déjà... Donc voilà, parce que tout le monde n'est pas à la même diffusion, enfin tous les pays ne sont pas. Voilà. Et donc, elle a découvert le sentiment amoureux, ce qui évidemment sous-entend qu'elle découvre sa féminité et ses sentiments. Après, qu'elle gère bien, c'est une toute autre question. Mais par contre, elle va pas ni se mettre à mettre du mascara, ni des jupes, ni des talons. Non.
Pas de frustration?
De frustration?
Oui, vous, en tant que comédienne, je veux dire.
Moi pas du tout. Ah non, mais moi, j'aime Astrid comme elle est. Non, mais alors surtout, je vais vous dire jusqu'où ça va. C'est que la costumière rêverait que je change de chaussure depuis le début. Non. Je refuse de changer de chaussure. Moi, me faire changer un pantalon, c'est pas possible. Quand j'ai dû changer de sac à dos parce qu'il était tellement usé le premier, j'ai dû changer. Pour moi, c'était un drame. Non, pour Astrid, tout changement est un drame. Donc pour moi, pareil. Moi, je vis très bien. Moi, je mets des talons aiguilles et du léopard dans ma vie perso. J'ai pas besoin d'Astrid pour être féminine.
Et Nils?
Alors Nils arrive, évidemment, c'est son demi-frère, donc déjà qu'elle a...
Découverte.
C'est une grande découverte, déjà que sa maman, la maman d'Astrid, elle le dit, c'est Madame Nielsen, c'est Mathilde, et ça lui va très bien comme ça, et elle ne voit pas l'intérêt de découvrir plus que ça sa maman, parce que c'est quelqu'un qu'elle n'a pas connu, donc évidemment, elle n'a pas un attrait fou pour la découverte de son petit frère, enfin, c'est pas, pour elle, ce n'est pas une priorité. Mais ça va quand même exister, mais à la façon d'Astrid.
Dans votre esprit, il arrivait quand, Nils?
Pardon?
Dans votre esprit, il arrivait quand, Nils?
Il arrivait quand, c'est-à-dire?
Je veux dire, vous l'aviez en réserve, dans vos tablettes, dans vos notes?
C'est vraiment quelque chose qui est né du récit de la saison 3. Ça nous semblait intéressant, effectivement, de bousculer un peu notre personnage en l'entraînant sur un terrain sur lequel elle n'avait jamais été, et en voyant comment justement elle allait réagir et comment on pouvait ou non créer cette connexion entre Astrid et ce petit frère. Et il y a quelque chose de très très fort qui s'est tissé en saison 3 avec le personnage d'Anne Langlais, qui est la mère du petit Nils, et du coup c'était un peu la continuité de cette histoire là et ça venait assez naturellement. Et effectivement, on explore un peu dans cette saison comment une relation a priori compliquée au départ peut quand même trouver un terrain et comment elle peut évoluer dans un sens que j'invite vos auditeurs à regarder dans la saison 4. Mais effectivement, c'est un fil très important dans cette saison.
Raphaël, est-ce que tu pourrais nous parler de Nicolas ?
Encore un bon numéro d'équilibriste. Savoir ce que tu peux dire et pas dire.
Donc là, on parle bien de la saison 4.
On parle bien de la saison 4.
Ok. Nous allons nous déclarer des choses.
Vous avez l'air convaincu.
Nous ne sommes pas sur le même timing, visiblement. Il y en a un qui avance et l'autre qui recule. Je ne vous dirai pas qui, mais ça avance et ça recule.
D'autant que ça change. Non, ça.
Comment ?
Non, je dis d'autant que ça change. C'est-à-dire que quand il y en a un qui avance, l'autre recule et quand l'autre avance,
c'est,
l'autre
le, c'est tout le temps le même.
Pas de timing.
Mais là, il y a quand même un changement. On se cherche plus, c'est-à-dire on s'est trouvé, on s'avoue des choses. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Tout est l'enjeu de la quatrième saison.
D'autant qu'il y a un chien dans un autre pays, parce qu'il y a un nouveau personnage dans cette saison.
Nora.
Dans un jeu de filles,
C'est Nora.
Il y a le personnage de Nora qui arrive, qui est un nouveau personnage de la
collègue
de la brigade, un nouveau collègue qui joue un rôle important pendant les enquêtes, mais qui aussi complique les choses.
C'est
suffisamment compliqué à deux et qui devient compliqué.
C'est le loup dans la bergerie, en fait.
C'est le loup dans la bergerie. Ouais. Il n'y a pas un chien, il y a un loup.
C'est un loup, voilà. C'est pas un chien, c'est un loup dans la bergerie.
Ça n'a pas toujours été évident à faire l'équilibre entre la partie sentiment, je veux dire, vie privée et l'enquête proprement dite.
Bah, c'est-à-dire, il y a effectivement c'est un équilibre à trouver, mais c'est le cœur de la série. C'est-à-dire que je pense que les intrigues policières sont considérablement importantes, mais quand on demande aux gens ce qu'ils ont retenu, c'est la relation entre Astrid et Raphaël, leur relation d'amitié qui évolue, et puis les relations avec les autres personnages. Donc c'est le cœur de la série, c'est le cœur qui bat sous les intrigues.
C'est très touchy, c'est ça qui est très touchy pour les auteurs dans cette série, c'est d'intégrer des intrigues policières, mais en faisant toujours exister la relation d'Astrid et Raphaël et par rapport à la demande du public. Donc c'est très.
Vous avez un fan club?
On a un fan club.
Oui.
On a une communauté.
Ah oui, carrément.
Astrel, voilà. Astrid et Raphaël.
Et c'est vous qui alimentez
On a beaucoup de comptes Instagram qui sont des comptes de fans, qu'on remercie d'ailleurs, et qui créent des stories tous les jours, nous font des coucou tous les jours, nous font des dessins, des montages, des photos, des extraits vidéo et qui nous postent ça. Et en fait,
on a des mèmes à n'en plus finir.
Moi, mon Insta, il est quasiment fabriqué que par mes fans, quoi. J'ai un feed continu et Lola aussi, et ils sont très drôles. Beaucoup d'humour. Voilà. Et moi, je leur dis merci parce qu'ils sont vraiment très
gentils. C'est génial. En ce qui concerne les guests, il y en a toujours eu finalement. Je revois saison 2, Palmat, Alison Paradis, Majax, Cotener. Saison 3, c'était Kapriski, Stéphane Guillon. Et ici, on annonce Philippe Chevalier, qu'on est content de revoir, sans Las Palès. Jean-Baptiste Guégan, vous parlez Johnny dans un des épisodes ou...
Alors... Oh là là, oui. Alors on est dans la vie.
Je vous fais découvrir. Je
me dis, mais non, mais c'est parce que.
Moi, je l'ai découvert au casque.
Mais moi aussi. Mais moi, à un moment donné, je jouais avec lui. Je me suis dit, vache, t'as la même voix que Johnny Hallyday. Il me dit, mais.
Il a la même voix que lui quand il chante, mais quand il parle.
Quand il parle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas ce truc-là sur scène, puisqu'il fait des spectacles qui remplissent.
Mais c'est pas un hommage à Johnny.
Non, c'est pas un hommage à Johnny.
Je peux pas encore dire quel personnage il joue, mais effectivement, on est bien dans un hip-hop.
Mais pourquoi il a été cassé d'ailleurs? Qui a eu l'idée?
Je sais pas qui, mais en tout cas, c'est assez génial parce qu'il est très juste dans son rôle.
Ouais.
Et effectivement, on sait pas tout de suite pourquoi on le connaît, mais on se dit, ah! Quand il part, je le connais.
Une fois, j'ai fait merde, on a Johnny.
Et puis il y a Tom Villa aussi. Et Hélène Médic, vous ne la connaissiez pas finalement.
On n'avait pas tourné ensemble.
Hélène
Médic. On n'avait pas tourné ensemble, mais c'était une chouette rencontre. Et puis il y a Théo Curin aussi. Théo Curin qui est je vois votre interrogation.
Ouais,
qui est un nageur professionnel paralympique qui est amputé des quatre membres, qui est un acteur extraordinaire. Et qui joue un rôle de gendarme, ce qui va casser les codes aussi. Pour une fois, il n'est pas en fauteuil roulant, il ne joue pas son handicap et il n'a pas été pris parce qu'il était différent. Et sa différence fait, enfin, passe complètement, j'allais dire pas à l'as, mais on n'est pas là pour ça. Et il est vraiment, c'est un superbe acteur.
Sauf évidemment Astrid et sa grande totalité.
Oui, bien sûr, on il manque des morceaux.
Voilà. Je dis,
mais effectivement, il est très
mais très belle rencontre et un très bel acteur. Et donc, j'engage tout le monde à l'engager.
Je suis désolée.
Lola, Sarah, Alexandre, un grand merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.